Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Elle lui dit « Oui, le cinéma, la nouvelle vague, passe encore. La dernière fois que j'ai vu Hiroshima, mon amour, quel film ! C'est jouissant et vous pouvez vous poser des questions existentielles sur la guerre, la souffrance intérieure des femmes. » Marguerite Duras, quel écrivain ! Son mari dit, le cinéma ne sera jamais aussi bien que le théâtre. Il n'y a que le théâtre pour éduquer les masses. L'Antiquité l'a appris bien avant nous. Une pièce de Sartre ou d'un auteur allemand vous apprend plus sur la société que n'importe quel discours d'homme politique. D'ailleurs, la politique est pourrie depuis Vichy. De Gaulle, il s'est fourré dans un panier de crabes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, les jeunes ? C'est existentiel pour vous, la politique, cette question-là. Denis se demande donc de quelle question il veut dire. Il se contente de répondre. Moi, la politique, je n'en fais pas. L'homme le regarde bien et lui dit. Ceux qui disent qu'ils n'en font pas de politique, c'est qu'ils sont de droite. On fait tous de la politique. Tout est politique. Même ce que nous mangeons est politique. Denis n'a plus faim et se dit qu'il ne doit pas avoir les mêmes idées politiques qu'eux parce qu'ils lui ont offert à manger ce qu'il n'aime pas vraiment. L'homme lui dit, si vous mangez comme ça, cela veut dire que l'on aime contre la société de consommation, que nous sommes pour des choses naturelles, pour des produits, contre les produits préfabriqués, chimiques, que nous sommes contre la tuerie des êtres vivants. Comme les animaux. Vous voyez, vous avez dans votre assiette de la politique. Oui, monsieur. Denis se dit qu'il est tombé sur une bande d'abrutis, un télo mode gauche caviar. Il a envie de pleurer parce qu'il aime Florence. Et si Florence était comme eux, à Lyon, elle semblait pourtant normale.
On entend la porte d'entrée qui s'est ouverte.
La mère dit, c'est moi, c'est Florence. Elle sort de la pièce en courant. Denis de plus en plus gêné. La porte s'ouvre. C'est Florence, en robe rouge. Elle est avec sa mère. Denis Penaud se lève. Elle va vers lui. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Il est tout rouge. C'est ridicule, mais je suis venu te voir. Tu es de congé ? Non ? Je suis venu exprès te voir. Il ouvre ses épaules et lui dit : tu es venu comme ça, sans me prévenir. Et pourquoi ? Il ouvre ses épaules. La mère leur dit : il faudra mieux, c'est que vous parliez seul. Nous allons vous laisser. Et le père et la mère sortent du salon. Florence va s'asseoir à côté de Denis. Tu te rends compte dans quel embarras tu me mets ? Tu es venu pourquoi au fait ? Il lui dit, tu ne comprends pas ? Non, je ne comprends pas, je ne suis pas voyante. Et au fait, l'homme qui t'a attaqué, tu sais pourquoi ? Non. Ça doit être simplement un invité de la soirée qui a dû me reconnaître et me faire une blague. Elle lui dit, et toi t'es venu, c'est pour me faire une blague. Non, je voulais te voir parce que j'avais envie de te voir. Parce que je t'aime et je ne pense constamment à toi. Elle lui dit, je suis très touchée, mais je ne suis pas comme tu me vois. Je suis une fille comme beaucoup d'autres. Et puis, je t'aime bien, mais pas autant que tu le voudrais. Je suis très flatté, mais non. Il voit qu'il s'est trompé, que ce n'était qu'un rêve. Il se lève et lui dit, excuse-moi, j'étais stupide, je m'en vais. Elle lui dit, ne pars pas comme ça, tu peux rester. Tu partiras plus tard, demain, pourrons visiter Paris ensemble. Il lui dit, non, ce n'est pas d'une camarade. C'est pas une camarade que je suis venu voir, mais rien. Il vaut mieux que je parte. Cela me fera moins de mal. Elle se lève et lui dit, c'est ridicule de partir comme ça. Et puis, on pourrait rester bons amis. Il lui dit, non, pas en ayant ressenti dans mon corps ce que je ressentis. Au revoir ou adieu. Tu diras merci à tes parents. Et Soupia lui dit, bon, fais comme tu voudras. Et il la quitte. Il ne ressent rien. Il ne souhaite que retourner à Lyon. Une fois dehors, il a pris un taxi pour la gare de Lyon.
Vous avez le numéro 51,
mademoiselle. Merci. Et le train part dans combien de temps ?
Dans 6.
Il y a un wagon-restaurant ?
Le wagon-restaurant est en tête du train.
Salut. Arrivé à la gare, il prend un billet pour le premier train pour Lyon.
Le train part exactement.
Il n'a pas beaucoup à attendre, juste une demi-heure. En attendant, il prend.
Travaille bien ton violon, Alphonse. Tu travailles bien et si tu es doué, tu deviendras un grand musicien.
Et si je travaille
mal,
sandwich au jambon.
Mal, si
en le mangeant,
bien,
avec satisfaction, il se dit.
Attention, Alphonse.
C'est un acte politique. Je retourne dans la société de consommation.
Salut, Alphonse.
Salut, papa.
Cannibale, tueur d'animaux et plein de produits chimiques. Mon Dieu, que c'est bon à côté d'un repas carottes soja. Décidément, je resterai toujours un homme de droite, car j'aime manger ça. Il entre dans le compartiment avec un esprit de grand soulagement et de torpeur. S'assoit près de la fenêtre, face à la marche. Le ciel, la gare, tout est gris. Une femme grande, un peu forte, un peu paysanne, habillée d'une gabardine beige. Elle doit avoir dans les 45 ans, est accompagnée d'un jeune homme plus grand qu'elle, dans les 17 ans, mince, les cheveux bruns, lunettes, visage osseux, triste, avec un costume gris, une chemise blanche, et à la main une mallette noire qui fait cartable ou valise, avec des fermetures éclair. La femme et le jeune homme se mettent en face de Denis. Le jeune homme est près de la fenêtre, comme Denis. Il regarde dehors et de temps en temps Denis. Le train se met en route. Denis sent une certaine lassitude, et avec elle la perte de son amour. Mais c'est bien fini, oui, bien fini, Florence. Cela lui fait mal. Le jeune homme qui est en face de lui semble aussi souffrir. La femme qui est avec lui lui dit « Reste ici, je vais revenir et ne fais pas l'imbécile. » Elle sort du compartiment. Une fois qu'elle est sortie, comme Denis semble avoir une certaine connivence avec le jeune homme, sans doute à cause de l'âge, connivence muette pour le moment, il dit au jeune homme « Votre mère ne semble pas bien commode. » Le jeune lui dit, « C'est pas ma mère, c'est une convoyeuse. Elle travaille avec la police pour accompagner les jeunes fugueurs. » « Vous êtes fugueur ?»« Oui, et vous ?»« Moi aussi, mais je ne suis pas fait prendre. » Le jeune lui dit, « Tu as de la chance, je m'appelle Jean-Pierre. Moi, c'est Denis. Tu es d'où ?»« De Lyon. » »« Moi aussi. Qu'est-ce que tu es venu faire à Paris ?» Jean-Pierre lui dit, « Je suis venu voir un ami. » Ça s'est mal passé. Le père, un prof, m'a dénoncé à la police. Je savais que mon ami était au lycée Henri IV, alors j'y suis allé. Je l'ai attendu, mais comme je voyais constamment les élèves sortir, je me suis dit que j'allais le rater. Et comme un con, je me suis présenté pour le demander. On m'a amené dans un salon, et là j'ai senti que mon escapade était finie. Ce n'est pas l'ami que j'ai vu, mais son père, une vraie peau de vache. Prétentieux, sûr de lui, et moche, moche. Derrière cette laideur, j'ai tout de suite reconnu le regard de mon ami. Je me suis dit que plus tard, il sera comme ça. Ça m'a fait un choc, moi qui le voyais si beau. D'un coup, je l'ai moins aimé. Mon père a fait venir la police et m'a amené. Elle m'a même mis les menottes. C'est con. Commissariat, cellule, devant le juge pour enfants, tout quoi. Puis le retour. Ce qui m'embête, c'est qu'on va me ramener chez mes parents. Pour moi, c'est pire que les flics, parce que pour eux, pas de pardon. On va te tenir serré, interdiction de sortir, pas d'argent, rien. L'usine, la maison et c'est tout. Ils vont me dire que tu as de la chance, ils te laissent regarder la télévision, palmarès de la chanson. Ce qui m'attend, l'horreur, le bagne, les flics, les juges, ça c'est ce qu'ils font lorsqu'ils nous rendent dans une famille. Ils savent que nous serons mieux gardés et punis que chez eux, et en plus, ça ne nous coûtera rien. Denis lui demande, pourquoi tu voulais voir ton ami? Parce que c'est un comédien, qu'il est très beau, et que je me suis mis à l'aimer. Oui, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Moi, un mec, il met un jeune. J'en ai souffert et puis je me suis fait une raison. Au début, je croyais que c'était de l'amitié. Puis je me suis rendu compte que j'avais envie de me toucher, d'en faire des choses avec lui. Je veux te dire, pourquoi est-ce qu'il me dit tout ça? Ce sont des choses que l'on cache. Parce que j'ai envie de dire à quelqu'un, au moins une fois. Après, lorsque je serai arrivé, il faudra me cacher. Parce qu'autrement, on va me prendre pour un monstre. La femme revient et s'assoit à côté du jeune. Jean-Pierre demande à Denis, « Et toi, ton histoire ?» Moi, c'est une fille. Connue, aimée, c'est fini. Je rêvais d'elle. Mais... elle n'était pas comme je le croyais. Et... il ne se parle plus. Le voyage se poursuit, triste et morose. Arrivé à Lyon, Denis n'a pas envie de rentrer chez lui. Il décide d'aller voir son frère. Il est 18h.
Denis, oui, je peux entrer, bien sûr. Denis entre. Allons au salon.
Tu as quelque chose à me dire ? Denis lui répond. Les parents ne t'ont rien dit ? Non ? Que se passe-t-il ?
Rien, ils n'ont peut-être... se peut-être aperçu de rien.
De quoi ?
Oh, au lieu d'aller aux cours, je suis parti à Paris.
À Paris ? Mais pour quoi faire ?
Denis s'assoit et lui explique.
Nicolas lui dit : je comprends, mais dis-toi bien, c'est qu'aucune fille n'est digne que l'on fasse des folies pour elle. Il ferait mieux c'est de rentrer chez père et de continuer ta vie.
J'aimerais mieux c'est rester chez toi. Je me sens incapable d'affronter la famille.
Bien, je comprends, comme tu voudras. Je vais téléphoner pour leur dire que je te garde avec moi ce soir. Parce qu'après dîner, on va écouter de la musique.
Nicolas a préparé le lit pour Denis dans le salon. Il a ouvert le canapé et mis des draps et une couverture.
J'espère c'est que tu seras bien.
Oui, merci.
Bonne nuit. Et Nicolas le laisse au salon.
Denis se prépare. La nuit.
Une fois dans son lit, Denis n'arrive pas à s'endormir. Il pense sans arrêt à cette journée,
Il revoit Florence. Cela lui fait mal. Il aimerait l'oublier. Puis cette chose qui lui dit que qu'il ne la verra plus. Il se sent affreusement seul. Sa gueule se serre. Il pleure, puis bâille. Il se sent épuisé, mais ne peut dormir car il a la gorge serrée. Et toujours cette voix qui lui dit que c'est fini, bien fini. Vous pouvez devenir ma vie maintenant. Les heures passent et il ne peut dormir. Et puis toujours cette angoisse d'avoir perdu Florence. Cela lui devient insupportable. Il veut dormir, oublier, dormir, oui, dormir, et ne plus jamais rêver, ne plus jamais rêver, dormir. N'en pouvant plus, il se lève. Sort de la chambre. Pour aller dans la salle de bain. Ouvre l'armoire à pharmacie. Il doit bien y avoir quelque chose. Il y a des tas de boîtes. Il en prend une, plusieurs flacons. Ce qui a fait dans la nuit un bruit terrible. Mince! Il entend du bruit. Une porte qui s'ouvre. Des pas. Vite, il ramasse les flacons. Pour les remettre dans la main en pharmacie. La porte de la salle de bain s'est ouverte. Son frère en pyjama bleu. Qu'est-ce qui se passe?
Denis lui dit, rien, j'ai cherché un comprimé pour dormir et tout est tombé. Colin lui dit, je comprends. Prend son frère à la taille et lui dit, viens.
Sorte de la salle d'eau. Il le mène au salon. Assieds-toi. Assois son frère sur le lit. Et lui s'assoit à côté de lui.
Je comprends, mais l'on ne meurt jamais d'une première histoire d'amour. Denis lui dit, mais tu te trompes? Non, ça te fera un beau souvenir. Ce sera ta plus belle, ta plus pure histoire d'amour de ton existence. Tout le monde passe par là, tu sais. Pour toi, la chose est faite. Maintenant, c'est fini. C'est comme la rougeole, on l'attrape, après c'est fini. Mais comme elle, il vaut mieux l'attraper jeune, le plus jeune possible, pour qu'on ait l'air moins idiot et pour que les gens trouvent normal que tu le sois. Denis le laisse parler. Il voit que ça lui fait plaisir de croire qu'il ait voulu mourir d'amour. Nicolas continue. Maintenant, tu es prêt à affronter ta vie sentimentale, sans te faire d'illusions et en étant moins naïf avec les filles. Dis-toi bien que dans cette affaire, les femmes sont plus mûres que nous. Elles se laissent moins dominer par leur sens et restent plus lucides. Nous sommes trop pris par nos désirs, ce qui nous rend aveugles et elles en profitent. Ça leur est plus facile de singer l'amour qu'à nous. Ne te donne jamais à fond en amour et surtout ne montre pas qu'elles sont indispensables. Fais celui qui a l'esprit libre. Et dis-toi bien que c'est ton premier amour et qu'il a été le plus fort et que les autres ne peuvent être qu'une copie de celui-là. Si tu souffres trop pour t'aider, tu peux écrire ton histoire. Cela te fera du bien. Tu la revivras et comprendras certaines choses. Nicolas embrasse son frère et lui dit « Tu veux quelque chose pour dormir ?»« Non, ça pourra aller. » « Bien, je te laisse car j'ai besoin de dormir, moi. Mais si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Oui, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. »
Et Denis quitte la pièce. Nicolas se couche.
Il se dit que son frère a cru qu'il a voulu se suicider. Cette idée, ce que vient de lui dire Nicolas, le calme vis-à-vis de Florence, et réussit à s'endormir. Denis se réveille mieux, il a très bien dormi, se sent frais et dispo, prêt à affronter la vie.
Après s'être levé, habillé, les draps, la couverture aussi, ranger le divan, tout est en ordre, n'attend plus que son frère, assis sur une chaise.
Un quart d'heure plus tard, on a frappé à la porte. Entrez.
Nicolas entre. Il va vers son frère.
L'embrasse. Tu vas mieux? Oui, merci. J'ai décidé de rentrer chez moi. Je vais reprendre ma vie, mes cours. Bien, comme tu voudras.
Denis, le soir après ses cours, revient chez ses parents qui se sont rendus compte de rien. Le voyage à Paris est passé inaperçu. La vie reprend. De temps en temps, surtout le soir, il repense à Florence. Il a un dégoût d'amertume. Un soir, il essaye même d'écrire leur histoire, mais n'y arrive pas. Benoît a des ennuis avec ses ouvriers. Les syndicalistes communistes ont réussi à se faire embaucher dans son entreprise et créent des troubles. Ils veulent forcer les gens à se syndiquer, à faire grève, à demander des revendications.
Les gens, par peur, font grève, car les syndicats se mettent devant la porte d'entrée de l'entreprise, traitent de faux culs, de vendus ceux qui veulent entrer. Les syndicats CGT est aidé par la ville de Vénissieux. L'usine est paralysée car les grèves sont fréquentes. Leurs revendications sont très importantes. Benoît dit, en recevant les délégués syndicaux à son bureau, « J'ai toujours fait de mon mieux pour les ouvriers. J'ai toujours essayé d'aller de l'avant. » Syndicaliste, petit, maigre, cheveux gris, habillé en salopette, lui dit, « On ne veut pas de paternalisme. » Benoît lui répond, « Bien sûr, il faut que les actions sociales viennent des syndicats. Il est interdit à un patron d'en faire. Seuls les syndicats ont droit l'initiative des améliorations sociales. C'est pour prouver qu'ils servent à quelque chose. En tout cas, les syndicats seraient rudement ennuyés s'ils n'avaient rien à demander au patron. C'est pour cela qu'ils demandent trop et refusent qu'on leur donne ce que leur donne le patron sans autorisation. Le social est interdit au patronat. Moi, je ne suis pas né bourgeois. Je fais tout seul, avec l'aide de mon travail, sans spéculation ou aide bancaire. Pour moi, les ouvriers employés n'ont jamais été des objets à produire, mais des compagnons de travail. L'entreprise est une grande famille pour moi. La preuve, c'est que même mes employés, parlons-nous, connaissent leur joie, leur peine. Et mes employés me connaissent aussi. Je leur fais participer à ma vie. Le représentant syndical lui répond, en agissant comme ça, vous faites comme les anciens seigneurs avec ses serfs. Benoît lui dit, je suis républicain et ici une famille modeste. Syndicaliste lui dit, arriviste. Benoît lui répond, c'est pas mal d'être arriviste. Cela prouve qu'un homme puisse arriver à quelque chose par la force de son travail. Bon, passons aux choses sérieuses. Je vais vous donner tout ce que je peux. Augmentation de salaire 3%. Diminution horaire. On ne travaille plus le samedi après-midi. Douche, infirmerie avec infirmière, comité d'entreprise, pause goûter le matin à 10h, machine à bouffe, boisson. Mais cela va coûter cher. Je vous demande, comme il y a diminution d'horaire de travail avec augmentation, c'est que les employés devraient bien faire l'horaire de travail et que la production devrait être plus assidue. Avant, j'étais plus souple à cause du nombre d'heures. Maintenant, il va falloir travailler à une plus grande cadence et ne pas s'arrêter en dehors des heures de pause et être sur son poste de travail alors. Autrement, on enlève les heures. Et désormais, puisqu'il y a un syndicat qui représente le personnel, la direction attendra les revendications syndicales pour ce qu'elle peut donner et ne proposera rien de plus. Elle ne donnera rien volontairement comme avant. Désormais, il y aura entre la direction et les employés, ouvriers, les syndicats. L'interlocuteur ne sera que le syndicat. Les rapports familiaux, amicaux sont rompus pour faire place à des rapports de pouvoir contre pouvoir. Voilà, messieurs. Les syndicats ont coupé les liens directs avec le patron et les ouvriers employés, ce qui fait que chacun reste dans son camp et les deux parties sont reliées par le syndicat qui dit et fait ce qu'il veut ou peut. Le syndicat a isolé le patron pour l'empêcher d'avoir des rapports avec ses employeurs, ouvriers, parce qu'il veut être le seul à tenir le gouvernail pour conduire les rapports où il veut. Voilà ce qui s'est passé dans l'usine du père, une époque est finie. Eh oui, une époque est finie. Désormais, il ne met plus les pieds dans son atelier. Il y a des informations de ce qui se passe par les cadres et les syndicats. On l'a forcé à devenir un patron comme le veut le syndicat, froid, hautain, d'une autre classe. Celle qui est à abattre, pour régner, il faut se créer un ennemi commun. Pour que tous regardent et portent leur hargne au même endroit. Cela peine beaucoup Benoît et les ouvriers sentent aussi quelque chose qui s'est cassé. Ils regrettent le temps où chacun était uni pour faire avancer l'entreprise. On voyait le patron, on pouvait lui parler, où il vous parlait et savait beaucoup de choses sur vous. Le syndicat a déshumanisé les rapports. Serré sous ses parents, Sylvie voit un jeune homme, grand, mince, avec des cheveux, une barbe frisée chardin. Il porte des lunettes à monture en métal. Il est le seul à ne pas être habillé, à un costume gris, un pull col roulé blanc. Sylvie se sent attirée par cet homme qui paraît à part les autres. Il s'approche de lui et lui demande. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Film intérieur dont c'était la 22e partie. Production mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.